carnets de campagne, bonjour. Les carnets sont dans le département du Gers cette semaine, d'où Claudine nous dénonce une petite maison d'édition qui a créé une collection de livres pour enfants à 2 euros. Il n'y a pas plus accessible. La maison s'appelle Yakabook. C'est le fruit de deux jeunes auteurs engagés qui souhaitent vivement démocratiser la lecture. Ce qui est amusant, c'est que la maison est à Lectour, commune que l'on apprécie aussi pour son excellent centre d'art contemporain et centre de la photographie. Ce centre organise d'ailleurs depuis 30 ans le festival L'été photographique de Lectour. 14 photographes vont accrocher leurs œuvres dans ce site rural de l'art contemporain et dans les rues du village. Le festival a lieu du 20 juillet au 22 septembre. Vous allez avoir le lien à nos pages franceinter.fr et page Facebook avec ce centre photo de Lectour. Et pour Yakabooks, l'adresse c'est Yakabooks, écrit Y-A-K-A, yakabooks.com. Autre ruralité à l'honneur, Simor, 700 habitants et un lieu protéiforme, alternatif et stimulant, le bouche à oreille, co-géré par Arthur Payès, premier invité. Méfiez-vous, derrière le coaching et le terme de coach, il n'y a pas qu'un effet de manche, de mode ou de privilège. Pour preuve, Cécile Zacconi, qui accompagne des personnes en situation de fragilité, va évoquer son parcours dans la seconde partie de ses carnets.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Arthur Payès, bonjour.
Bonjour.
Donc on se retrouve 10 ans plus tard, parce que vous arriviez dans le Gers il y a 10 ans, avec une envie de créer une activité, mais les choses n'étaient pas précises. Là, maintenant, depuis de nombreuses années, c'est précis, ça se confirme, même de jour en jour.
Voilà, et c'est finalement le territoire qui a créé le besoin, c'est-à-dire que nous, on avait l'intuition de faire un lieu autour de l'alimentation, et puis finalement, le dernier café de notre village a fermé, et du coup, on s'est dit, ben, on va partir de cette activité-là, et on va essayer d'inventer quelque chose pour développer le territoire à partir de cette économie du quotidien, de ce service aux habitants.
Votre souhait avec votre femme, Séverine, était de vivre différemment en milieu rural. C'était une vraie cassure que vous vouliez signifier entre vous et la ville ?
Pour moi, c'est plus une évolution qu'une cassure. L'idée, c'est vraiment, en amenant de la culture en milieu rural, eh ben, commencer à réinventer une manière de vivre à la campagne, quoi. Voilà.
Alors, le bouche à oreille que vous avez créé est pas tout à fait un lieu culturel. C'est un lieu de service, c'est un lieu culturel, c'est un lieu d'alimentation, c'est un petit peu tout ça.
Voilà. Hein. En fait, le bouche à oreille aujourd'hui, c'est une coopérative d'intérêt collectif, c'est une structure à but non lucratif. Ça fonctionne sans aide publique et c'est effectivement le bar-restaurant qui va permettre de développer toutes les activités d'éducation populaire qui effectivement abordent des thèmes différents. Alors, il y a 130 coopérateurs qui sont propriétaires du bar-restaurant, de ses murs. Et c'est un bar qui est ouvert avec des boissons de 9h à 22h, autant qu'un restaurant qui est ouvert tous les midis, du mardi au samedi, les jeudis soirs, le samedi soir, etc. Alors les quatre grands thèmes d'activité sur lesquels on travaille, c'est l'alimentation, qui vont du potager au restaurant, ça c'est le premier collège. Alors là, la chef, Séverine Payès, elle s'est formée auprès d'Alain Passard,
oui.
Qui est un 3 étoiles à la
Oui.
Et le jeu de ce restaurant, c'est de cuisiner vraiment avec les producteurs locaux, de leur donner une place de choix aux légumes, aux aromatiques, etc. Alors pour ça, on a développé un potager en permaculture, dans lequel on emploie une magnifique maraîchère, Sophie Perrier. Et dès cet été, on va tenter une expérience. Les gens, ils pourront visiter, après le repas, avec la chef, le potager.
Bien.
Et comme ça, ils pourront découvrir l'envers du décor, comment on produit les aliments, la biodiversité, la variété des herbes ou des légumes qui peuvent intervenir dans une seule assiette, et voir un peu l'envers du décor.
Ouais.
Après, tous les lundis matins, s'ils veulent, les habitants, ils peuvent aussi, par exemple, venir au potager. Sophie, elle va en même temps leur apprendre et en même temps, ils vont aider au potager où il y a des poules, une ruche, un cochon noir qui mange les déchets organiques du restaurant, etc.
Ouais. Alors, particularité, alors, Arthur, quand même, je voudrais signaler que vous avez un second bâtiment qui réunit, pour les activités économiques, une douzaine d'artistes, d'artisans, avec une boutique de créateurs.
Oui, alors là, faut venir visiter. C'est le deuxième collège, qui s'appelle Initiative Économique Locale. Et là, donc, on a loué une autre maison, qui s'appelle Espantard, qui est un petit peu de patois.
Mmh.
Et dans lequel il y a ces artisans. Il peut y avoir, par exemple, il y a une illustratrice qui a sorti deux livres aux éditions Mémo, ou est bientôt à l'école des loisirs. Il y a une costumière scénographe, il y a un photographe, un luthier de basse, de guitare, un maroquinier, une brodeuse. Et puis on aide aussi d'autres gens à s'installer dans le village. On a par exemple maintenant une compagnie de marionnettes, on a deux magnifiques facteurs de clarinettes et de saxophones. Voilà, ça fait des dizaines de nouveaux emplois.
Joli. Donc, je résume, les collèges, alimentation du potager, culture, éducation populaire, initiative économique locale, éthique et transmission.
Éthique et transmission, ça, on y tient beaucoup, c'est ce qui fait la démocratie du projet. En fait, on fait beaucoup de formations avec une super association qui s'appelle l'Escargot Migrateur, où on apprend vraiment à coopérer, à construire ensemble, parce que c'est pas naturel, contrairement à ce qu'on voudrait faire croire, de construire ensemble, et qu'il faut essayer, progresser, et contrecarrer notre penchant naturel à vouloir prendre le pouvoir pour aller plus vite, mais souvent moins loin. Et ça, au final, ça vaut vraiment le coup, parce que ce qu'on n'ose jamais savoir, c'est que le vrai plaisir, c'est de partager. Quoi.
Ouais. Ouais. Des concerts, des conférences, des expos, c'est un sacré programme. C'est le rêve, ce que vous avez pu concrétiser. Alors, là. À Simor, 700 habitants, et vous dépendez d'un GIP Café Culture du département.
Voilà, alors c'est un fonds en fait où les collectivités elles vont mettre une enveloppe qui est à disposition des bars-restaurants du territoire et qui, quand ils vont déclarer un musicien, eh ben ils vont avoir en moyenne l'équivalent des charges sociales qui vont leur être automatiquement remboursées. Mmh. Voilà. Et ça a vraiment l'avantage pour le territoire comme pour les collectivités de pouvoir soutenir la culture en milieu rural sans frais de fonctionnement et en aidant les cafés-restaurants du milieu rural qui sont pas aujourd'hui naturellement florissants. Donc ça permet de redévelopper des lieux de socialisation indispensables.
Le bouche à oreille, le bao.fr pour l'adresse, la page Facebook aussi, et puis vous aurez un lien avec le groupement d'intérêt public des cafés culture du Gers. Encore une bonne idée en provenance de ce département, et ça ne m'étonne pas. Merci Arthur.
Merci à vous.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand. Sur France Inter.
Parmi les nombreux courriers reçus depuis le Gers, nous avons été particulièrement alertés par celui de Jean-Claude, membre de l'ASP32, Association d'accompagnement et pour le développement des soins palliatifs du Gers. Premier souci, l'association se bat contre les idées reçues. Les soins palliatifs ne signifient pas à chaque fois extrême fin de vie. Et même si cela est le cas, les soins palliatifs sont donnés également en complément des traitements curatifs. Ces soins sont donc destinés à soulager la personne malade. Deuxième souci, selon les données rapportées par notre correspondant, l'accès aux droits des soins palliatifs révèle une inégalité flagrante, puisque sur 10 personnes qui devraient en bénéficier, seules 4 personnes les reçoivent effectivement. Troisième souci, des associations comme celle-ci sont trop peu connues alors que leurs services sont essentiels au domicile de la personne malade, dans les EHPAD et dans les établissements publics ou privés. Enfin, quatrième souci, l'association est obligée de refuser des demandes faute de bénévoles à proximité de la personne en attente de ce soutien. Toute personne donc disponible peut se faire connaître auprès de l'association qui dispense une préparation à l'exercice et une formation indispensable à cet accompagnement. L'ASP a un site ainsi qu'une page Facebook toujours affichée à nos pages d'émission. À ce sujet, nous avons reçu le clip vidéo d'une chanson écrite et interprétée par l'équipe de soins palliatifs de l'hôpital de la Châtaigneraie en Vendée. Contre la souffrance des malades et des soignants, contre l'idée de penser ces lieux comme des mouroirs et pour un accompagnement réussi même dans la tristesse des départs, l'équipe vendéenne frappe fort. À vous de voir ce clip, on vous l'a mis également en ligne, c'est incroyable. Cécile Zacconi, bonjour.
Bonjour, bonjour Philippe.
Je ne sais combien de vies vous avez vécues, je vais les résumer, Cécile, si vous me permettez. D'abord, la médiation artistique, ensuite l'humanitaire, un engagement au Ghana, auprès d'une banque du sang, ensuite l'éducation nationale, l'anglais en France, et puis ensuite l'engagement dans une école à Rabat au Maroc. Et puis une grande réflexion sur un métier qui va devenir le vôtre et qui est même reconnu par le département aujourd'hui dans la validation des parcours de réinsertion professionnelle de personnes au chômage, c'est coach. Alors j'ai régulièrement des courriers de coach avec parfois de bonnes intentions, on va dire tout le temps de bonnes intentions, mais des intentions très intéressées et ça nuit vraiment à cette... cette appellation, Roger Federer à son coach, le Nîmes Olympique Football à un coach, il y a des coachs d'artistes. Alors finalement, il faut entendre quoi ?
Le coach, l'étymologie, c'est cocher, de celui qui conduit la diligence. Donc c'est une posture de quelqu'un qui est au service de l'autre, dans la discrétion et ce qu'on appelle, dans notre jargon, en posture basse, comme un thérapeute. Et l'objectif du coach, sa mission, c'est d'accompagner la personne qui l'accompagne vers son propre destin avec ses propres ressources, ses propres moyens. Donc c'est certainement pas du conseil et des postures injonctives, c'est celui qui inspire, qui soutient et surtout qui fait confiance à l'autre. Et c'est vraiment la posture de base que j'ai essentielle quand j'accompagne notamment le public auquel vous faites référence, à savoir des gens en recherche d'emploi et en besoin d'insertion sociale. C'est vraiment un regard de confiance en eux. J'ai confiance en eux et après on trouve les moyens pour avancer. Voilà.
Alors Cécile, jusqu'à présent le métier de coach n'est pas réglementé, mais pour cause, chacun sa méthode.
Il est réglementé par une fédération internationale et d'autres aussi européennes. Donc il y a un socle de compétences, une déontologie, une éthique, mais il n'est pas encore réglementé. Donc il a est reconnu par l'État comme une profession à part entière, un peu comme les thérapeutes il y a une grosse dizaine d'années.
Voilà. Mais chaque coach met au point sa propre méthode, ce qui est votre cas.
Alors moi j'ai une formation avec des outils certifiés, validés, tels que la PNL, l'analyse transactionnelle, la psychologie positive. Donc on a un socle commun d'outils, une boîte à outils qu'on partage. Et puis après, effectivement, chacun colore son approche de son parcours antérieur de coach, de sa personnalité. Moi j'ai mis beaucoup d'art, par exemple, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition parce que je suis comme ça. Mais il y a quand même des socles communs en termes d'outils, d'approches et surtout de déontologie. Quoi.
Ouais. Et je vois, par l'intermédiaire d'associations, comme vous l'écriviez dans votre courrier de réinsertion sociale, Cap Emploi ou Pôle Emploi, vous avez accompagné environ un bon millier de personnes, avec un retour à l'emploi très positif de 70%.
Oui, oui. J'ai le sourire quand j'entends ce que je vous ai dit, qui est effectivement la réalité. Alors on me demande toujours c'est quoi le secret. Le secret c'est qu'en fait c'est plus vraiment des outils que j'utilise, c'est une intention qui permet aux gens de se reconnecter à leurs rêves. Et qu'une fois que les gens se reconnectent à ce qui est vraiment essentiel en eux, dans ce qui les fait vibrer au plus profond, ça débloque une énergie, un élan de vie extraordinaire. Et moi, mon job, c'est d'accompagner cette énergie pour qu'elle se transforme dans des actions concrètes, pragmatiques, opérationnelles. Des fois, ils sont tout près du rêve, des fois, ils sont un peu plus loin, c'est un peu plus distancié du rêve d'origine, mais ils sentent encore cette connexion avec ce qui les fait vibrer. Et je crois que c'est certainement ça, la baguette magique.
Ben, je suis heureux de m'entretenir avec une fée. la baguette magique, c'est normal. Mais il n'y a pas de miracle, c'est une réalité. C'est de lutter aussi contre une fatalité qui pèse sur certaines personnes et qui joue sur leur démotivation, démobilisation. Et ce que vous faites, c'est justement de remobiliser, de remotiver et de donner une confiance en soi qu'on peut retrouver pleinement grâce à ces ateliers, entre autres, Gersois d'innovation et d'insertion que vous animez. Alors vous allez trouver un lien, chers amis, et comprendre cette démarche. Il y a toujours des nouveautés dans le Gers et on est ravis de pouvoir présenter celle dans l'activité de Cécile Zacconi. Un site qui est en cours d'élaboration, si j'ai bien compris.
Tout à fait. Bientôt disponible.
Bon, formidable. Alors, on le mettra entre parenthèses, mais chacun pourra l'utiliser dès sa mise en fonction. Merci Cécile et bonne continuation.
Merci beaucoup Philippe. Au revoir.
Encore des messages. Alors, il y en a un qui vient des Hautes-Pyrénées, où nous étions la semaine dernière, à savoir celui de Bruno. Bruno a une entreprise, s'appelle Ambiance Bioconstruction. Il est négociant en éco-matériaux pour particuliers et professionnels, le seul encore en service dans ce département. Les deux domaines sont l'isolation et la décoration. Et après 15 ans d'existence, écrit-il, je me prépare à la retraite pour 2020. Je cherche à transmettre le fonds de commerce. Si je clôt purement et simplement, c'est la grande distribution qui gagnera une fois de plus. Vous allez trouver à nos pages très rapidement l'adresse électronique de Bruno si vous voulez entrer en relation avec lui. Et puis un coup de pouce pour un nouveau venu. On avait présenté il y a quelques mois Nectar, la revue aux éditions de la Tribu, avec Éric Fourreau, son créateur, qui prépare Dardard, une nouvelle revue qui accélère la transition, butine le local et pique les consciences, je cite. Il y a un financement participatif pour participer à la sortie de cette revue semestrielle, pour piquer les consciences Dardard. Pareil, un lien si vous voulez participer et contribuer à l'évolution de cette nouvelle revue. Dans le Gers, Nicolas Stoufflet, Montesquieu, le jeu des 1000 euros.